Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est donc la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. C'est à vous de choisir les sujets sur lesquels vous souhaitez débattre. 33 9 693 693 70. Vous êtes nombreux à souhaiter commenter le report du référendum constitutionnel au Mali. C'est promis. Nous vous donnerons la parole dans quelques minutes. Des réactions également sur la mission de la Cour pénale internationale au Gabon. Plusieurs analystes, trois pour être précis, se sont rendus 48 heures cette semaine sur place à Libreville. On en parlera évidemment ensemble. Mais d'abord, les violences dans les Kassai. Vous le savez, il n'y aura finalement pas de commission d'enquête internationale sur les massacres, mais une assistance technique à la République démocratique du Congo. Voilà le compromis trouvé par les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ils se sont réunis tout au long de la semaine, ils ont discuté, les tractations ont été particulièrement tendues. Pas de commission d'enquête internationale au nom de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Bonjour Henri.
Oui, Juan, bonjour.
J'imagine que vous regrettez cette décision, puisque vous disiez au Standard avoir la nécessité de justement de déployer sur place une commission d'enquête internationale dans les Kassai.
Oui, Juan, c'est une décision qui déçoit énormément, parce que nous nous attendions au déploiement des enquêteurs internationaux pour pouvoir donner la vraie version des massacres qui ont été perpétrés chez nous au Kassai, parce que moi qui vous parle, je suis originaire du Kassai. Vous imaginez 3383 morts. Ça, c'est le bilan qu'a donné l'Église catholique, parce qu'elle est implantée partout sur toute l'étendue du territoire national. Et sachant que notre justice n'est pas indépendante, sachant que notre justice est en féodé, donc on comptait essentiellement sur cette enquête internationale pour que, évidemment, nous puissions savoir qui ont été à la base des massacres des innocents, des civils dans notre région. Et ben malheureusement, l'Union européenne, puisqu'il y a eu la pression des syndicats, des présidents africains, et l'Union européenne a baissé les bras, je vous dis que nous sommes blessés et déçus. Et donc, nos sœurs, nos frères, nos parents qui ont été tués, qui ont été massacrés, la justice ne sera pas faite comme il se doit, parce que nous savons que la justice congolaise, c'est une justice, comme j'ai dit au début, c'est une justice qui est inféodée, qui n'est pas indépendante, donc on ne connaîtra pas la vérité, et les victimes ne rentreront pas dans leurs droits. La justice véritable ne sera pas rendue.
En tout cas, le gouvernement de Kinshasa souligne la compétence de la justice congolaise. Je précise qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, qu'il y a deux procès même qui se déroulent en ce moment. Le procès des meurtriers, des deux experts des Nations Unies assassinés et décapités à la mi-mars, et puis le procès également de militaires qui sont accusés d'avoir tué des civils. Pour vous, cette assistance technique est donc insuffisante, ce qui relance d'ailleurs le débat sur la crédibilité du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ne raccrochez pas Henri. Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Vous, au contraire, vous soutenez la position des pays africains tout au long de la semaine pour s'opposer à l'envoi d'une commission d'enquête internationale dans les Kassai.
Oui, tout à fait. Je me réjouis de ce compromis trouvé au Conseil des droits de l'homme. Je pense qu'il faut respecter la souveraineté des États. Je suis abasourdi d'entendre que le caractère international rimerait avec manifestation de la vérité, comme je viens de l'entendre. C'est soit d'une naïveté incroyable, soit alors d'une complicité de visée politique. Non, mais qui dit qu'une enquête internationale est censée être plus objective que la justice congolaise? Nous vivons dans un monde de gentils où les enquêtes internationales n'ont jamais de visée politique. Enfin, on a tout autant de raisons de se méfier d'une enquête internationale qu'on peut en avoir de ne pas faire confiance en la justice congolaise. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Et là, vous avez l'impression, au regard des atrocités, des massacres qui sont commis, que le gouvernement de Kinshasa veut véritablement faire toute la lumière. À l'instant, Henri citait le bilan de l'Église catholique congolaise, 3400 morts. Je rappelle que les Nations Unies, de leur côté, ont découvert 42 fosses communes. Et à l'ONU, on dit qu'il y en a il y en aurait peut-être davantage, puisque certaines zones du pays sont interdites aux enquêteurs des Nations Unies, à la MONUSCO tout du moins, qui est déployée sur place. Vous avez, vous, vraiment l'impression que les autorités veulent faire toute la lumière sur ce qui se passe dans les Kasaï ?
Elles ont intérêt, en tout cas. Et moi, je me place, en parlant comme je le fais, du côté des victimes, du côté de la population. Nous sommes là pour que la vérité soit connue et que la justice passe, mais pas à n'importe quel prix. Nous ne voulons pas que ce soit l'occasion de régler certaines affaires politiques. Mmh. Donc je dis que, de toute évidence, l'assistance technique permettra aux responsabilités d'être dégagées, permettra à la justice de passer. Nous sommes pour que la lutte contre l'impunité soit réelle.
Oui. En même temps, il faudra qu'à chaque fois que ces experts internationaux qui feront partie donc de l'assistance technique voudront se déplacer dans certains secteurs, il faudra qu'ils puissent avoir le feu vert des autorités congolaises et la résolution des Nations Unies, enfin qui sera adoptée cet après-midi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'obligera pas finalement le gouvernement de Kinshasa à autoriser ces enquêteurs à se déplacer partout dans le pays.
Non, je pense qu'il faut de plus en plus faire comprendre au monde que la souveraineté des États, ce n'est pas une règle dépassée, ce n'est pas désuet. Donc, mais la presse, l'opinion publique sont aussi des instruments de pression qui permettent à une cause d'avancer. Donc je crois que l'assistance technique suffira et que la justice congolaise a tout intérêt, comme les autorités de la RDC, à ce que la vérité soit connue de tous.
On prolongera le débat lundi, puisque c'est un sujet qui suscite déjà un certain nombre de réactions au standard. On sent un véritable intérêt après la résolution qui sera donc adoptée cet après-midi. On vous dira tout et vous pourrez suivre évidemment cette actualité dans nos différentes éditions. Et pour bien comprendre cette crise qui est compliquée, n'hésitez surtout pas à consulter le site RFI, RFI.fr, et à regarder ce web documentaire, une enquête remarquable de Sonia Rollet en 3 volets. Il faut donc avoir le temps, prendre le temps pour comprendre et analyser la situation avec, vous le verrez, des vidéos, des documents, des témoignages. 33 9 693 693 70. Je vous le disais tout à l'heure, la révision de la Constitution au Mali suscite énormément de réactions, d'autant que ce projet est dénoncé depuis plusieurs semaines par l'opposition, par une partie de la société civile. On a même vu des partis importants de la mouvance présidentielle prendre position contre la révision constitutionnelle. Eh bien, cette semaine, il a été décidé de reporter à une date ultérieure le référendum qui était prévu le 9 juillet. Bonjour Mama.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue. Alors, êtes-vous satisfait ou pas par le report du référendum ?
Je suis aujourd'hui en partie satisfait de cette décision du président Ibeka pour le report en fait de la révision constitutionnelle, mais je pense qu'il faut aller purement et simplement au retrait de ce projet pour plusieurs raisons. Actuellement, le pays se trouve dans une situation sécuritaire très très difficile sur un plan aujourd'hui purement sécuritaire. Le pays a eu récemment même l'attentat de Kangaba.
Oui, dimanche dernier.
Dimanche dernier. Sur le plan politique, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Faut-il modifier une constitution pour renforcer le pouvoir du président? Et cela pourrait fausser le jeu démocratique.
Oui, enfin, je précise effectivement, les détracteurs affirment que le nouveau texte renforcera les pouvoirs du président, car si le oui l'emporte, un Sénat sera alors créé et un tiers des sénateurs sera directement nommé par le chef de l'État. Et ce qui est prévu également dans la nouvelle constitution, c'est que le président de la République pourra également désigner le président de la Cour constitutionnelle, cette cour qui proclame les résultats des élections. Donc, d'où la bronca qu'on entend et qu'on a vue hein, dans les rues de Bamako, puisqu'il y a eu plusieurs manifestations. Donc, vous vous dites, il faut un retrait pur et simple et pas, on va pas se contenter d'un report. Restez en ligne, Mama. Moïse est également avec nous. Bonjour.
Oh, bonjour, Juan Gomez, et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Alors, que pensez-vous de ce report ?
Bon, je me réjouis tout d'abord de la décision sage que le président de la République a prise en reportant le projet de révision de la Constitution qu'il avait proposé. Mais en fait, nous étions tout à fait mobilisés contre le nouveau projet de réforme constitutionnelle parce que vu les moments difficiles que les pays traversent, donc nous nous disons que franchement, il n'était pas opportun de vouloir réviser la Constitution à ce moment-là.
Pour dire excusez-moi Moïse, pour dire simplement les choses, il y a peut-être plus urgent et plus important que de créer un Sénat, c'est la lutte contre l'insécurité.
Justement, créer le Sénat, nous ne sommes pas contre. Nous ne disons même pas que dans la nouvelle Constitution qu'il nous propose que tout est mauvais. En fait, il y a des choses qui sont très bonnes là-dedans. Mais nous disons qu'il faut que ça fasse l'objet de consensus et de larges concertations, ce qui n'avait pas été le cas. Le président avait voulu mettre la charrue avant les bœufs. Il y a de ces choses là-dedans qui ne sont pas bonnes, qu'il faudra peut-être voir et retirer. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi des choses là-dedans qui sont très bonnes, il n'y a pas de problème.
Oui. Mais le fait de vouloir organiser un référendum, alors que on le sait très bien, et vous êtes mieux placé que moi, évidemment, pour le savoir, la situation sécuritaire est telle dans le centre et le nord du pays qu'une partie de la population n'aurait pas pu participer au référendum.
Justement, c'était notre inquiétude, c'est ce qui nous a même révolté totalement. Nous nous posons la question, pourquoi en ce moment précis, il a voulu forcer. C'est un forcing qu'il a voulu opérer. En fait, nous ne pouvons pas comprendre que dans ces moments difficiles où pratiquement les un tiers du pays ne sont pas sous contrôle, qu'il force une nouvelle constitution. Oui. Et pratiquement à la fin de son mandat, il y a même aussi des zones sombres dans la nouvelle constitution qu'il nous propose pour dire que peut-être dans les cas où il n'y aura pas pouvoir organiser des élections, il pourra rester en place. Là, les gens étaient logiquement... On avait la raison de nous révolter.
Oui, j'ai pas lu le volet que vous venez de souligner. S'il n'y a pas d'élection, il reste en place. Je vais revérifier tout cela, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le référendum n'aura pas lieu le 9 juillet. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. Merci à vous, Moïse. Mama, peut-être une petite conclusion, puisque Moïse a parlé bien plus longtemps que vous.
Oui, ma conclusion là-dessus est très claire. Hein. Le président Ibeka doit tout simplement retirer ce projet de constitution et renforcer la lutte contre l'insécurité qui est en train de s'aggraver dans le pays et ensuite procéder à une révision constitutionnelle plus tard. Bien. Pour éviter que les Maliens ne soient divisés et que cette division ait des conséquences imprévisibles sur le pays.
Merci de nous avoir appelé, Mama. Et là aussi, c'est promis, nous en reparlerons dans les prochains jours, vu le succès que ce sujet a au Standard et sur la page Facebook de l'émission RFI. Appel sur l'actualité. La mission de la Cour pénale au Gabon. Durant 48 heures, trois analystes de la CPI se sont rendus à Libreville en vue d'un examen préliminaire qui permettra d'ouvrir une enquête ou pas sur les crimes commis lors de la crise post-électorale d'août 2016. Bonjour François.
Bonjour Juan, bonjour à tous fidèles auditeurs de RFI.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, et vous disiez au Standard que cette mission était la bienvenue.
Oui, il fallait bien parce que entre ceux qui disaient qu'il y a eu des exactions et entre ceux qui disaient qu'il n'y avait pas, il fallait bien que cette commission arrive et elle est finalement arrivée, les experts de la Cour pénale internationale. Pour moi, c'était une très très bonne chose et leur arrivée, pour moi, n'a fait que susciter de l'espoir pour que qu'on sache exactement qu'ils aient tous les éléments nécessaires qui leur permettront, pourquoi pas, d'ouvrir finalement une enquête sur la situation du Gabon entre le 31 août et le 4 septembre.
Oui, je rappelle que le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement d'avoir commis des crimes contre l'humanité. On a d'un côté donc le pouvoir qui a saisi la Cour pénale internationale accusant donc Jinping, le candidat malheureux à l'élection présidentielle, d'incitation au génocide. Il est même accusé de crimes contre l'humanité. Et ce dernier, donc l'opposant, a lui aussi saisi la Cour pénale internationale 3 mois plus tard, donc au mois de décembre, pour accuser le pouvoir de crimes contre l'humanité. En tout cas, évidemment, la CPI va mener son enquête. Elle a déjà pu rencontrer ces 2 derniers jours des membres du gouvernement, des opposants, des membres de la société civile. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, François. Il y a une chose sur laquelle les deux camps sont d'accord, c'est qu'il y a eu des crimes durant la période post-électorale.
Très bien, Juan, très bien. Allons-y. Puisque le pouvoir, effectivement, et que j'entends de tout ce qu'ils ont dit, mais vous savez, la Cour pénale ne va pas fonctionner comme la Cour ordinaire, comme celle qui est ici au Gabon, qui ne se base que sur des paroles. Vous comprenez? Eux, c'est des experts, ils vont se baser sur des preuves. C'est-à-dire que des preuves, pas sur le fait des paroles, ce que les uns et les autres ont dit, mais ce que les uns et les autres ont fait. C'est-à-dire que les preuves qui vont être fournies, il faut que le pouvoir, de son côté, fournisse des preuves. Des preuves, c'est quoi? Les vidéos, il faut des images, il faut des photos, il faut tout ce qui prouve que, effectivement, le camp de l'opposition a commis des crimes contre l'humanité. On ne doit pas se limiter aux intentions. Non, il ne faut pas qu'on dise que l'opposition avait des intentions. Il faut qu'on dise clairement que l'opposition a fait. Maintenant, du côté du pouvoir, avec bien sûr Jean-Ping, eux aussi, ils vont avoir des preuves.
Bien sûr.
Ils vont avoir des preuves, des documents, des vidéos. Vous savez, ce qui était intéressant avec l'arrivée des experts de la Cour pénale, c'est qu'ils ont même pu rencontrer les victimes.
Oui, ils ont rencontré des membres de la société civile, le procureur de la République, des diplomates au poste. En tout cas, vous l'avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne, sur RFI, le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinzé, a dit « Nous n'avons rien à cacher et on attend la réaction de Jean-Ping après le passage de ces 3 analystes de la CPI au Gabon. Jean-Ping qui devrait s'exprimer aujourd'hui, affaire à suivre. Merci à vous, François. Il nous reste 3 minutes. On va s'intéresser à la situation en Centrafrique après l'accord de paix conclu lundi entre le gouvernement et les groupes rebelles. 24 heures après la signature de cet accord de paix, eh bien, les affrontements ont repris à Bria. On comptabilise, en tout cas, la Croix-Rouge centrafricaine a comptabilisé jusqu'à présent 62 morts. On se demande pourquoi avoir signé cet accord s'il n'est pas respecté. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bangui. Pour vous, cet accord, il est déjà caduc au regard de la situation sur le terrain?
Effectivement, je signale ici là mon scepticisme face à l'aboutissement de cet accord, parce que au moment même où il était en train d'être signé, les hostilités ont éclaté à Bria. Et après la signature, aujourd'hui, 4 jours après la signature, les hostilités n'ont pas encore baissé. Il y a toujours des exactions. Les groupes armés qui ont signé ces accords-là sont en train de s'affronter. On se demande bien si vraiment ils sont pour la paix ou non. Et je dis ici là que ça sera très sceptique. C'est déjà un autre accord de plus qui a été signé, mais tous n'ont jamais été respectés. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, la ville de Bria est toujours à feu et à sang. Je voudrais encore dire une autre chose.
Allez-y.
Oui. Oui, le deuxième point sur lequel je suis très sceptique, c'est sur le contenu même de cet accord. L'accord, pour dire plus court, on peut dire que c'est une amnistie qui ne dit pas son nom. Parce que les chefs rebelles, ils vont bénéficier du DDR, ils vont bénéficier des bourses, ils vont être réintégrés dans la force publique, dans la fonction publique. Ils vont renégocier les sanctions qui avaient été imposées contre eux avant. Ça veut dire qu'ils seront graciés d'une manière ou d'une autre.
Oui, donc une amnistie qui ne dit pas son nom, une impunité qui ne dit pas son nom. Vous avez raison, c'est vrai. Bon, il faut remplir un certain nombre de critères pour pouvoir réintégrer l'armée centrafricaine, pour pouvoir bénéficier de bourses, donc d'une aide, pour se réinsérer dans la société. Mais c'est vrai qu'en contrepartie d'un cessez-le-feu, d'un désarmement, le gouvernement promet d'entamer des discussions auprès de l'ONU pour lever justement les sanctions qui visent certains responsables de ces groupes. Un point qui, évidemment, choque une grande partie de l'opinion publique centrafricaine. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelés. Merci à vous tous de votre fidélité, puisqu'on est à un moment de remercier. Je remercie évidemment toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. On se retrouve lundi, on attend d'ici là vos questions, et lundi vous pourrez réagir à la décision des 47 États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de ne pas envoyer une mission d'enquête internationale dans le Kasaï au nom de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. On en parlera donc tous ensemble lundi. Excellente fin de semaine.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre